5, 4, 3, 2, unité, top.
Chaque semaine dans l'auberge espagnole, on reçoit...
Tout y passe et tous y passent.
Une auberge espagnole dans laquelle nous allons tout d'abord parler avec Pierre Guiraud, vice-président du Conseil Général, parler d'une enquête sur les déplacements dans le territoire de l'Hérault. Une enquête qui se déroule d'octobre 2013 à avril 2014 et qui a pour objet évidemment de savoir comment les gens se déplacent dans le département afin d'améliorer l'offre de transport actuelle et de déterminer les nouveaux équipements et infrastructures nécessaires demain. Puis nous aurons Pierre Buisson dans les studios de l'association Les Vrais Amis du Père Prévost, une association née de la volonté d'habitants du quartier des Beaux-Arts de conserver le stade dit du Père Prévost, rue Beau Séjour à Montpellier, menacé de disparition par un projet immobilier de 280 logements. Mais avant tout ça, un petit peu de musique pour illustrer le thème des transports, Old Train des 40 Winks, extrait de l'album de 2007 Sound Puzzle.
2-1-0.
Nous sommes au téléphone avec Pierre Guiraud, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes vice-président du Conseil Général, délégué à l'aménagement et à l'économie des territoires. Vous êtes un enseignant à la retraite, professeur de mathématiques. Et c'est un petit peu de mathématiques qu'on va être amené à parler, puisqu'on va parler d'une étude sur la mobilité, les transports, les déplacements des Héraultais qui a démarré, qui va être menée jusqu'en avril 2014 et qui est une première. Alors qu'est-ce qui a avancé ? On connaît l'afflux de population que connaît le département de l'Hérault depuis pas mal de temps. On imagine que cette donnée n'est pas étrangère au fait de faire cette étude, mais quels sont les autres facteurs qui ont amené à entreprendre ce vaste travail ?
Oui, c'est vrai que la croissance démographique, c'est le point de départ de notre réflexion. Mais la volonté dans cette étude qui est inédite, puisque jamais réalisée dans ce pays... C'est aussi pour nous la volonté à un moment donné d'avoir sur le territoire départemental une photographie. Cette photographie à l'instant T qui va à la fois nous permettre de savoir ce qui se passe le jour même ou le jour d'avant, puisque quand nous allons enquêter, nous allons demander aux gens qu'est-ce qu'ils ont fait hier en matière de déplacement. On saura bien sûr hors période scolaire, pour être dans un temps, bien sûr, tout à fait logique et fixe. Et puis, cette étude nous permettra donc de nous projeter sur l'avenir. En clair, je crois que c'est pas quelque chose de révolutionnaire. Aujourd'hui, nous savons les uns et les autres que les déplacements sont au cœur de notre vie quotidienne. On se déplace pour aller à l'école, pour aller au travail, pour étudier, pour les loisirs. Donc, c'est vrai, c'est dans un premier temps, avec la photographie, on considérera comment on peut améliorer l'offre de transport actuelle, et puis ça nous permettra de déterminer les nouveaux axes et les nouveaux équipements que nous devons effectuer pour répondre à ce qui se passera demain. Donc, autrement dit, c'est un instant T, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, quelle pratique vous avez, et quelle projection nous pouvons faire sur l'avenir pour répondre à vos besoins.
Alors, les transports, c'est aussi des problèmes environnementaux qui sont toujours associés. Il y a aussi l'intention de pouvoir mener une réflexion plus globale sur l'aménagement durable du territoire.
Oui, alors, c'est vrai que ce qui va être aussi intéressant, c'est qu'au-delà de la quantification, puisque nous allons interroger 11 000 ménages sur l'ensemble du département. C'est aussi certainement la première fois que dans une étude de transport, nous allons évaluer les impacts environnementaux, puisque dans le diagnostic qui va être fait, l'ADEME, donc, qui est une structure nationale qui permet d'évaluer les consommations énergétiques, sera partie prenante dans cette opération. Donc, autrement dit, on est un peu aussi dans la volonté du département d'être sur ce qu'on peut appeler globalement qu'est-ce que c'est que vont devenir les transports que nous souhaitons durables sur ce territoire, c'est-à-dire durables pour préserver la qualité de vie, l'environnement. Donc il y aura à la fois une étude quantifiée qui nous dira ce qu'il faut faire, mais aussi une étude qui nous montrera combien il faut être économe aujourd'hui en matière de consommation d'énergie sur cette planète. Je suppose, tout à l'heure vous parliez de mathématiques, il y a un chiffre qui m'a pas choqué, mais qui m'a interpellé. On considère dans le département, quand on les a quantifiés, puisque vous savez que le département est associé à l'ensemble des communautés d'agglomération du territoire. Autrement dit, on l'a fait à la fois sur le département, mais sur les communautés d'agglo, Béziers, Montpellier, Sète et Agde. Aujourd'hui, on considère à peu près qu'il y a 90 millions de voyages par an sur l'ensemble des transports en commun de notre département. Donc 90 millions, ça veut dire qu'il y a des pratiques donc de déplacement au niveau du transport en commun qui sont importantes. Et c'est vrai aussi que cette étude, elle est pas neutre. On va s'apercevoir inévitablement que nous sommes les uns et les autres un peu captifs de la voiture. Mmh. Et l'idée, c'est aussi, est-ce qu'on peut à un moment donné imaginer se défausser quelque peu de la voiture pour prendre du transport en commun. Donc, autrement dit, il y a aussi c'est plusieurs fers au feu, quoi.
En 2010, selon l'INSEE, il y a 1 44 558 habitants recensés dans l'Hérault. On prévoit qu'il y en ait 1 400 000 en 2030.
En
2030, donc il faudra extrapoler les premiers résultats de cette enquête qui sont attendus pour fin 2014, avec une augmentation conséquente de la population.
Oui, voilà. Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait, en fonction de ce qu'il se passe sur le territoire, on sait aujourd'hui quels sont les lieux où la croissance démographique est forte. Par exemple, dans notre département, on s'aperçoit que la croissance démographique sur les agglomérations, que ce soit au Montpellier ou Béziers, c'est une croissance démographique qui est parée naturelle. Mais par contre, on a des lieux du département, notamment tout le cœur d'Hérault, tout ce triangle Gignac, Clermont-l'Hérault, Poyan, qui est un territoire en forte croissance démographique. Donc, au-delà de l'étude sur les déplacements, on va savoir effectivement qu'est-ce qu'il se passe sur ce territoire, quels sont les lieux de ce territoire où il va y avoir de la croissance démographique. Je veux dire, c'est pour ça que cette étude, elle est inédite, elle sera particulièrement intéressante, parce que aujourd'hui, faire une route, créer un lieu de transport qui n'existe pas, je veux dire, c'est toute l'anticipation sur ce que sera l'aménagement du territoire de demain, parce que on sait aujourd'hui répondre à du transport en commun sur le territoire. Bon, dans l'urbain, c'est facile. Mais dans l'interurbain, c'est-à-dire dans les rediffus, c'est peut-être plus compliqué. Mais on sait aussi qu'il y a des lieux de ce département où les transports en commun ne sont pas particulièrement performants et que les personnes sont toujours captives dans la voiture. Donc c'est vraiment une étude qui sera, je crois, le rendu sera passionnant parce que à partir d'une photographie, on va se projeter, ce que vous disiez là, sur 30 ans, savoir qu'est-ce qu'il va se passer dans ce département.
Alors on voit bien qu'il y a beaucoup de Montpelliérains qui, pour la qualité de vie qu'on peut y trouver, vivent un petit peu à l'extérieur de la ville. C'est le cas aussi pour d'autres villes du département. Est-ce que les résultats de cette étude pourraient, quand on voit surtout aussi le développement du tramway qui, non content d'irriguer le centre-ville, peut aller jusqu'à la plage ou jusqu'à Saint-Jean-de-Védas? Oui, presque. On va pas faire de digression sur le tronçon manquant. Mais c'est vrai que est-ce que ce type d'étude pourrait amener à envisager d'autres voies ferrées à une échelle plus départementale?
Oui, ça, je veux dire, c'est aussi ça dans la réflexion, parce que les voies ferrées sont quelque peu désaffectées. RFF a abandonné les voies ferrées qui étaient les voies ferrées d'intérêt local sur le territoire diffus. Mais et c'est vrai aussi qu'il existe encore des plateformes de voies ferrées qui sont, pour la plupart, quand elles sont désaffectées, utilisées comme voies vertes avec des circulations piétonnes ou cyclistes. Mais c'est vrai qu'il y a des voies ferrées qui peuvent encore être utilisées. Je pense notamment à toute la réflexion que l'on mène dans le projet Valcordia qui a initié le département autour de la gare de Poyan. Hein. La gare de Poyan qui était un nœud ferroviaire du croisement des lignes d'intérêt local qui faisait à la fois Béziers-Montpellier et Villas-Bédarieux. Donc c'est vrai que vous avez totalement raison de poser la question de quid des voies ferrées d'intérêt local qui ont disparu. Est-ce qu'on peut imaginer un certain retour aux sources? Je crois que tout ça sera posé. Et l'important, je crois que ce sera de donner quelle réponse allons-nous apporter dans 30 ans au problème du déplacement des gens à partir d'une photographie actuelle. Aussi. Je veux dire, c'est toute une analyse fine qu'il faudra faire. Hein.
Oui, quand on voit qu'en 2012, par exemple, c'est 6 550 344 voyages qui ont été effectués sur les lignes de bus de l'agglomération Béziers-Méditerranée, une augmentation de 5% par rapport à l'année précédente, on imagine bien aussi que les chiffres des compagnies publiques de transport doivent aussi attester de cette augmentation d'activité.
Bien sûr. Alors c'est vrai que la problématique de l'urbain et de l'interurbain, c'est deux problématiques totalement différentes, mais à un moment donné, quand je me déplace dans l'aire urbaine, ce que vous dites, là, avec le tramway, l'aire urbaine peut s'accroître, à un moment, aujourd'hui on est sur une certaine forme d'intermodalité, puisque l'écart des lignes interurbaines s'arrête généralement là où commence la ligne de tramway, avec le même ticket, on peut faire effectuer deux voyages différents dans deux modes de transport différents. Mais tout ça, c'est au cœur de nos préoccupations, parce que inévitablement, et ça je veux dire, chacun d'entre nous le comprend très bien, dans la mesure où l'ADEME est associé à cette étude, on verra dans quelles conditions on peut faire de l'économie d'énergie, et faire de l'économie d'énergie, inévitablement, ça veut dire transporter les gens en commun plutôt qu'en voiture. L'étude, elle devrait déboucher sur une meilleure performance du transport en commun, qu'il soit urbain ou interurbain, si on veut privilégier notre environnement.
Alors c'est une étude qui, on le disait tout à l'heure, a démarré le 15 octobre, se poursuivra jusqu'au 15 avril 2014, avec un volet grand territoire pour l'aire métropolitaine Montpellier-Rennes et un volet ville moyenne pour le Biterrois et le Nord-Ouest. 11 000 foyers au total répartis sur l'ensemble du territoire départemental seront invités à répondre à une interview en face à face ou par téléphone selon la zone dans laquelle on se trouve, selon une méthode appelée Standard Certu qui consiste à sélectionner les foyers de manière aléatoire, c'est bien ça?
Oui, bah, c'est-à-dire que par rapport au territoire, ce que vous voulez exprimer, sur le Montpellier-Rhin, ce sera une méthode au porte-à-porte, puisque sur le territoire montpelliérain, la population étant plus dense, on peut recenser plus facilement. Et puis sur le reste du territoire, à la fois sur l'ouest et puis sur le secteur Lodève-Clermont, on sera sur une réflexion téléphonique. Et donc on est sur une étude standard du CERTU. Bon, le CERTU, c'est un organisme reconnu par tous. Nous savons effectivement les uns et les autres ce que représente le CERTU. le sérieux, la garantie, la confidentialité. Donc il fallait effectivement, pour que nous soyons crédibles et que les résultats soient des résultats, bien sûr, qui n'amènent aucun reproche, on le fasse faire par quelqu'un qui est reconnu au niveau national.
Donc les premiers résultats seront donnés fin 2014. Oui. Et ben on sera à l'écoute de l'évolution, bon, en souhaitant que cette étude...
Nous aussi, le département, parce que il y a certes le problème des transports en commun, mais il y a pour nous aussi le problème des équipements et des dessertes routières. Hein. Mm-hmm. Quid de cette route? Est-ce qu'il faudra la doubler? Est-ce que c'est plutôt sur ce territoire qu'il faudra faire un effort? Je veux dire, quand on regarde, enfin, des choses simples, hein, sur le Montpellier, par exemple, on s'aperçoit que la route Moggio aéroport est une route à forte densification. Le département est en train de réfléchir au fameux lien, au contournement est de Montpellier pour brancher directement du secteur Vandargues sur le secteur Gignac-Clermont-Léraud. Donc c'est vrai que cette étude de déplacement, et c'est vrai qu'il y a le déplacement, je suppose que dans l'étude, dans la mesure où on interrogera les gens pour leur dire qu'est-ce que vous avez fait hier en matière de déplacement, on s'apercevra que le déplacement de travail est important, on s'apercevra que le déplacement scolaire est important. Et tout ça nous fera voir aussi sur le plan économique pourquoi les gens se déplacent. Est-ce qu'au lieu de faire déplacer les gens, il n'est pas possible de déplacer de l'activité? C'est un peu la réflexion qu'a le département aujourd'hui avec sa politique d'éco-parc. Donc l'éco-parc de Saint-Honnès-et-Thum, il existe depuis quelque temps. On est en train de réfléchir à créer donc un éco-parc sur Bel Air, un autre sur le territoire Gignac-Saint-André, c'est-à-dire sur des territoires où on sent que la population, ce que vous disiez au départ, on sent que la population de Montpellier est en train de quelque peu s'expatrier. Si elle s'expatrie, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de lui retrouver de l'activité? Je veux dire, ça aussi, c'est une façon de réduire le problème des déplacements. Et essayer de coller avec les territoires et de faire qu'à un moment donné, à la fois par rapport à une famille, si le père ou la mère travaille sur place, le fils peut étudier au collège qui est sur place, on économise de longs déplacements vers la capitale montpelliéraine, ou bitéroise, ou sétoise. Il y a aussi ça, tout ça. C'est vrai que c'est une étude qui, au début, peut paraître anodine, si ce n'est son caractère inédit, mais les conclusions, elles vont nous permettre de prendre politiquement des décisions sur l'aménagement de ce territoire qui me paraissent capitales. Le déplacement, c'est au cœur de nos problématiques journalières. Je dis, autant bien vous que nous, que nos auditeurs, ils montent dans une voiture ou ils montent dans un transport en commun pour aller tous les jours se rendre quelque part.
Voilà, sur les quelques 5000 km de route que compte le département. Oui. On va souhaiter un bon travail aux 125 enquêteurs qui ont été recrutés dans le département, majoritairement des étudiants ou des personnes en recherche d'emploi, ce qui allie l'utile à l'utile. Et on se tiendra au courant des résultats. Donc,
je suppose qu'il y aura peut-être un rapport d'étape, et si un rapport d'étape, on pourra effectivement convenir d'en reparler.
Très bien, Pierre Guiraud, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes vice-président du Conseil général délégué à l'aménagement et à l'économie des territoires. Merci pour ces quelques minutes d'interview.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir. I'm
down the road and go. Well, I ain't going down that long.
Bien bel hommage que cet extrait de Cool Tributes numéro 2, c'était Slack Wax on the Road Again. Comme annoncé au sommaire, nous sommes à présent en compagnie de Pierre Buisson. Bonjour.
Bonjour.
Alors il faut parler très près du micro. On vous reçoit en tant que membre de l'association Les Vrais Amis du Père Prévost, qui est une association née de la volonté d'habitants du quartier des Beaux-Arts de conserver le stade dit du Père Prévost, qui se trouve rue Beau Séjour à Montpellier, menacé de disparition par un projet immobilier de 280 logements. Un bras de fer s'est engagé entre les habitants et les promoteurs de ce projet immobilier. Donc on vous reçoit pour faire un petit point pour cette histoire qui date pas d'hier, puisque je crois que c'est en 2011 que vous aviez commencé à alerter la municipalité sur la fin en fait du bail qui liait le propriétaire du terrain et la ville.
Oui, effectivement, c'est en fin de l'année 2011 où on a su par la presse qu'il y avait un projet immobilier et donc qui supprimait le stade. Et c'est un stade très important du quartier, hein, qui a certainement presque un siècle d'existence et donc qui servait énormément aux habitants du quartier, aux clubs sportifs, au stade Lunaret par exemple, mais aussi toutes les écoles, tous les collèges y venaient jouer, et puis même les clubs de football venaient y faire des matchs, puisqu'initialement cet ensemble, donc ce plateau sportif, comme on pourrait dire, comprenait deux stades, une piste d'athlétisme et des stades de volley, hand, etc. Voilà. Mmh. Et c'est suite au passage de la ligne de tramway, ce que nous avons dénoncé à l'époque, que finalement le terrain qui était non constructible, puisque c'était un terrain sportif, est devenu constructible donc, par la volonté municipale, puisqu'elle avait négocié donc, le passage du tramway comme contre la transformation du non constructible en constructible. Voilà. Mmh. Et donc ça date de 2002, et c'est en 2011 qu'effectivement le propriétaire du terrain donc, a décidé effectivement un projet immobilier de 280 logements, donc il va effectivement supprimer totalement les activités sportives de ce stade et du quartier. Mmh. Voilà.
Au-delà des activités sportives, ce qui est souligné notamment par une lettre ouverte de Jean-Claude Michéa qu'on peut retrouver sur le blog des Amis du Père Prévost, c'était aussi un lieu de mélange, d'insertion, de mixité, et ça, c'est au moins aussi important que l'aspect sportif de la chose.
Bien entendu, dans le quartier, il n'existe pas de places importantes, de lieux importants, etc., pour pouvoir recevoir des groupes, des jeunes et des moins jeunes, etc. Et c'est vrai que le stade, c'était un bon lieu pour recevoir, donc, en dehors des moments scolaires, par exemple, les jeunes du quartier, mais aussi leurs familles, puisque, effectivement, ce stade servait effectivement aux activités sportives, mais aussi aux activités de loisirs. En fait, on voyait plein de personnes qui faisaient des footings, et puis il y avait des gens qui s'y réunissaient effectivement pour venir surveiller leurs enfants, etc. Et donc, effectivement, c'était un lieu très, très important du quartier, surtout que beaucoup de familles du quartier y ont joué. Voilà, et donc, effectivement, c'était aussi un lieu de mémoire, finalement, de l'activité sportive et de loisirs du quartier.
Alors, est-ce que la situation est actuellement bloquée, puisque l'adjoint à l'urbanisme, Michel Delafosse, disait que c'est une affaire de droit privé, donc on n'est pas concerné, ce que vous dénoncez quelque part?
Alors, effectivement, on peut, de ce point de vue-là, on pourrait dire que c'est une affaire de droit privé sur laquelle on n'a rien à dire en propriétaire, jusqu'à preuve du contraire, donc, et propriétaire de son terrain, il fait ce qu'il en veut. Seulement, c'est quand même la ville qui organise l'urbanisme à Montpellier. C'est la ville qui donne les permis de construire, jusqu'à preuve du contraire. Et donc, nous, ce que nous aurions souhaité, c'est que si on peut retenir qu'il y a besoin de logements à Montpellier, sur lequel on peut être d'accord, il aurait été intéressant, effectivement, que la ville, qui est quand même la puissance publique sur cette affaire-là, puisse faire une véritable concertation en disant, ben voilà, il y a un projet d'un promoteur privé, on a besoin de construire des logements pour loger la population. On aurait pu en discuter. Mmh. Surtout que dans le quartier, il existe d'autres endroits où on peut construire du logement. Hein. Donc, ça ne peut pas être ça qui a été le blocage. Mais la ville, en fait, comme elle fait habituellement depuis des années, c'est-à-dire qu'elle ne suscite pas la concertation. Alors que nous, on a à plusieurs reprises émis un certain nombre de propositions qu'on a transmises de vive voix par courrier à la mairie. Et ces propositions sont restées totalement lettres mortes. Mmh. À tel point qu'on se demandait effectivement s'il recevait nos courriers et si l'adjoint à l'urbanisme recevait nos courriers. Voilà. Donc nous, on n'est pas contre les logements. D'ailleurs, lors de la négociation du changement de statut de ce terrain en terrain non constructible, en terrain constructible, il était prévu des constructions. Nous avions, notamment sur une partie du stade, puisqu'il y avait deux stades, on gardait un stade et l'autre partie était devenue un terrain vague. Donc, on avait accepté l'idée qu'on pouvait construire des logements sur cette partie-là. De là à couvrir l'ensemble du terrain de sport de logement, peut-être il y a une dimension peut-être trop importante, etc. Mmh. D'autant plus que dans le projet qui nous a été présenté, aucune place supplémentaire dans les écoles n'a été ouverte. Donc, soit les promoteurs vont sélectionner les habitants, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas d'enfants ou qui n'ont plus d'enfants ou qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Rien n'a été discuté sur, justement, les problèmes de stationnement, de circulation dans le quartier qui est déjà très, très encombré, puisque, justement, dans le cadre des discussions sur le plan de circulation et de déplacement, nous avons mis déjà en exerce un certain nombre de difficultés. En plus, le terrain du Père Prévost était un bassin de rétention pour le débordement de la petite rivière qui traverse le quartier qui s'appelle le Chambéry. D'ailleurs, on a des photos où on voit que effectivement le stade sert de bassin de rétention puisqu'il est complètement inondé. Voilà. Mmh. Toutes ces questions-là sur lesquelles on a, et bien d'autres, on avait posé des questions à la municipalité, nous n'avons aucune réponse. Mmh. Ce que je voudrais dire, c'est que on n'a rien contre le promoteur, nous n'avons rien contre le propriétaire, mais par contre, on trouve que la municipalité, c'est pour ça qu'on en fait un enjeu public, aurait pu effectivement élaborer avec le promoteur et avec le propriétaire effectivement un projet plus respectueux des besoins du quartier. Mmh. Voilà, c'est là-dessus. On avait quand même proposé à la mairie, comme elle l'a fait à d'autres endroits à Montpellier, par exemple, d'acheter le terrain. De le rendre, donc, de le soustraire à la promotion.
De le préempter, oui.
Voilà. Mmh. Et le problème, c'est que ces propositions-là sont restées à la vie. On voit qu'elles viennent de le faire pour elle l'avait fait pour le parc Clémenceau. Elle a acheté le parc Montcalm. Elle est intervenue pour qu'effectivement une partie du jardin de la Reine ne soit pas soumise à la promotion immobilière, etc. Dans le quartier, elle vient d'acheter l'espace des archives départementales qui sont parties, etc. Donc, la ville, elle peut avoir une politique de type urbanisme et de construction maîtrisée lorsqu'elle le veut. Mais là, effectivement, on n'a jamais pu en discuter.
Mmh. Alors, il nous reste très, très peu de temps. Est-ce qu'il y a des échéances? C'est quoi la prochaine étape? Est-ce que vous avez un rendez-vous, peut-être, avec la ville?
Alors, nous avons un rendez-vous le 15 novembre, voilà, où est censé nous être présenté le nouveau projet. Enfin, on espère un nouveau projet. En tout cas, nous avons accepté d'assister à cette réunion que dans la mesure où on dit rediscuter du projet. Mmh. Nous n'y allons pas et nous partirons de cette réunion si simplement on discute de la couleur des volets ou de la couleur des balustrades.
Pierre Buisson, merci. Ce sera l'occasion de vous recevoir pour faire un point sur cette situation. Merci d'être venu dans les studios de Divergence.
Merci à vous.
L'Auberge Espagnole sur Divergence FM, c'est tous les mardis de 12h à 13h.
Quelque chose de pas trop dégueu.